Souvenir de famille reçoit Véronique Péréal, petite fille de l'académicien Jacques Hibert. Jacques Hibert naît en 1890 à Paris et décède en 1962. Nous fêtons donc en 2012 l'anniversaire de sa mort. Il étudie au conservatoire puis remporte le premier Grand Prix de Rome en 1919. Il dirige l'Académie de France à Rome, c'est-à-dire la Villa Médici, que l'on connaît aujourd'hui pendant de nombreuses années. C'est ce qui crée vraiment le centre de sa carrière. Il est appelé ensuite le 1er octobre 1955 comme administrateur de la Réunion des théâtres lyriques nationaux. Une tâche qu'il va quitter à cause de sa santé fragile et de la tâche. Il se retirera dès le 20 avril 1956 et c'est la même année qu'il est élu membre de l'Académie des Beaux-Arts.
Les œuvres majeures, donc celles qui sont connues, les plus connues du grand public, en fait, il y en a trois. Donc, il y a Escale, qui est une œuvre pour orchestre, qui a été composée pendant la période où il était pensionnaire à la Villa Médicis. La seconde, c'est Histoire, qui est un recueil d'œuvres pour piano, dont la plus connue s'appelle Le Petit Âne Blanc. Je crois que ça a été beaucoup joué par les enfants des conservatoires qui ont pratiqué le piano, qui a été également composé à la Villa Médicis quand il était pensionnaire. Et puis la troisième, c'est le Concerto pour flûte et orchestre, qui est un grand morceau du répertoire des flûtistes. Donc les flûtistes apprécient énormément cette œuvre parce qu'elle a vraiment été composée exclusivement pour eux. Donc ça sont les trois œuvres majeures de mon grand-père qu'on entend un peu partout dans le monde depuis qu'elles ont été composées. Alors, il aimait tout. En fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que, en fait, que ça soit des commandes ou que ça soit pour lui, il aimait aussi bien composer de la musique symphonique que des œuvres pour piano. Il a eu peut-être une petite préférence pour les instruments qu'on n'entendait pas forcément, notamment les instruments à vent. Donc, il a beaucoup composé pour les instruments à vent. Il aimait aussi mélanger les instruments à vent avec la musique de chambre. Il a composé des opéras bouffe, il a composé des œuvres lyriques, des ballets et aussi une soixantaine de musiques de films, ce qui est très moderne en fait. Donc il ne s'arrêtait donc à aucune frontière. C'est vrai qu'il aimait composer aussi bien donc pour des commandes que pour lui-même et donc aussi bien des œuvres pour orchestre que de la musique de chambre, que des œuvres pour piano, où donc il s'intéressait particulièrement aux instruments à vent. Et je crois que c'est un des compositeurs français qui leur a donné une grande place, notamment dans la musique de chambre. Sa source d'inspiration, il y en avait plusieurs. Il y avait d'abord tout ce qu'il regardait autour de lui. Donc tout pouvait être prétexte à l'inspiration. Donc ça pouvait être une musique entendue lors d'un de ses voyages, aux Baléares par exemple, où il s'arrêtait, il prenait des notes, il entendait un bruit ou quelque chose. Donc déjà, tout était matière à inspiration. Il avait le goût des belles choses aussi. Donc il dit dans certains textes que j'ai retrouvés qu'effectivement ça l'aidait à trouver de l'inspiration. Il aimait aussi voyager. Donc là aussi, je pense à une œuvre qui a été composée aux États-Unis qui s'appelle Louisville Concerto, qui a été composée donc aux États-Unis pour cette ville. Il aimait aussi Don Quichotte. Et Don Quichotte, pour lui, a été un personnage extrêmement important. On lui avait commandé la musique du film de Pabst qui s'appelle Don Quichotte. Donc, il a écrit quelques chansons pour ce film. Et après, il a écrit l'œuvre qu'il considère comme son œuvre majeure qui s'appelle Le Chevalier Errant. Et il était très proche de Don Quichotte, pas pour le côté « je me bats contre les moulins », mais plutôt pour une quête d'un idéal. Voilà. Donc ça, pour lui, c'était extrêmement important. Il a été élu donc en 56. Et les seules choses que je peux vous dire, c'est qu'en fait, il a été, c'est plus en rapport avec la Villa Médicis, c'est qu'il a été le seul musicien directeur de la Villa Médicis et que à l'époque, sa candidature avait été présentée par l'Institut alors qu'il n'était pas membre de l'Institut. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans les souvenirs familiaux. Il y a eu des moments très forts dans sa vie. Je pense qu'il y a eu une période, c'était 1900, donc les années de la Première Guerre mondiale. Je pense que c'est une période qui l'a fortement marqué, notamment sur sa foi chrétienne. Donc ça, c'est un moment où il a eu, un déclic en ce qui concerne la foi, parce que c'était quelqu'un qui était très pieux. Il y a eu toute la période de la Villa Médicis, il y a eu aussi un gros problème, un gros souci qui l'a marqué aussi énormément. C'est la période de la guerre où en 1940, il a été obligé, il a été embarqué dans un car de police avec sa femme et ses enfants parce que c'était la guerre et donc il fallait partir de la villa. Donc ça s'est passé dans des conditions difficiles. Et puis, je crois qu'il y a eu toutes les années de bonheur à la villa entre 1946 et 1960. Alors l'œuvre que je préfère, c'est une œuvre qui n'est absolument pas connue, qui est extraite du Chevalier errant dont je parlais tout à l'heure, et qui est un petit passage qui s'appelle « L'âge d'or du Chevalier errant ».